Il y a tout juste 80 ans, le général de Gaulle lançait depuis Londres son fameux appel du 18 juin, appel à la résistance contre l'occupant nazi. Pour en parler, Julien, votre invité, Dominique Lormier, historien et écrivain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Bonjour Dominique Lormier.
Bonjour.
Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Est-ce que vous pourriez nous raconter les quelques heures qui précèdent l'appel du 18 juin ?
Oui, alors le général de Gaulle, le 17 juin, est sur Bordeaux pour proposer à Paul Reynaud une union entre la France et la Grande-Bretagne pour poursuivre la guerre, qui va être rejetée finalement par le maréchal Pétain, parce qu'entre-temps, Paul Reynaud a démissionné. Et lorsque de Gaulle arrive à Bordeaux, il apprend donc la démission de Paul Reynaud et la nomination de Pétain en tant que chef du gouvernement. Or, il sait très bien que Pétain lui est tout à fait hostile. Ils se sont bien entendus durant la Première Guerre mondiale, puisque de Gaulle a été sous les ordres de Pétain, mais maintenant ils sont en opposition, puisque Pétain est partisan de l'armistice et de Gaulle est partisan de poursuivre la guerre en Afrique du Nord.
Voilà pourquoi le général de Gaulle prend un avion direction Londres. Les Britanniques y réagissent comment en voyant débarquer ce général français quasi inconnu qui demande d'emblée à se rendre à la BBC ?
Il l'accueille favorablement parce que Churchill l'a déjà sondé, il l'a rencontré plusieurs fois durant le mois de juin. Il est au courant également de ses faits d'armes durant la campagne de mai-juin 40. Donc il est accueilli, je dirais, d'une manière favorable par Churchill.
Et la suite, on la connaît, hein. Le général de Gaulle écrit son discours dans la journée du 18 juin et le prononce le soir au micro de la BBC. Quels sont encore aujourd'hui, 80 ans après, les mythes et légendes encore tenaces de cet appel du 18 juin ?
Oui, alors les mythes, c'est qu'on veut nous faire croire que tous les Français auront entendu l'appel du 18 juin. Or, à ce moment-là, la majorité des Français se trouvent sur les routes de l'Exode. Donc c'est un appel qui est un peu tombé dans le vide, mais qui néanmoins est rentré dans le domaine historique comme un appel à la résistance.
Il n'y a pas eu de photo, pas d'enregistrement de cet appel du 18 juin. Il a été réenregistré quelques jours plus tard.
Tout à fait. Alors, il a quand même été entendu un petit peu en France, puisqu'il y a eu quelques journaux qui en ont fait écho, mais il a été beaucoup moins entendu que l'appel à l'armistice du maréchal Pétain qui avait eu lieu le 17.
Si mes souvenirs sont bons, la première version de l'appel du 18 juin, celle diffusée pour la première fois à 22h, elle a été relue et corrigée par le gouvernement britannique au préalable.
Tout à fait. Le gouvernement britannique ne voulait pas froisser le maréchal Pétain et le futur régime de Vichy. Donc, ils ont repris certains passages parce que le général de Gaulle était assez vindicatif à l'encontre du maréchal Pétain. L'entourage de Churchill avait une très bonne image du maréchal Pétain en tant que vainqueur de Verdun et il pensait qu'il aurait peut-être la volonté de poursuivre le combat, donc il ne fallait surtout pas le froisser justement à ce moment-là.
Cet appel, on connaît tous aujourd'hui sa portée historique, mais à l'époque, est-ce que ça a été un moment véritablement fondateur ?
C'est devenu un appel, je dirais, un élément fondateur dans la création de la France libre et de la résistance, parce que c'est vraiment un appel à la poursuite des combats dans un climat, je dirais, de démoralisation généralisée.
Et puis cet appel du 18 juin, il ne vient pas totalement de nulle part. Si de Gaulle lance la résistance à ce moment-là, ce n'est pas pour la beauté du geste, il y croit et il a des raisons d'y croire.
Oui, parce qu'il a une vision mondiale du conflit. Contrairement à Pétain, Pétain pense qu'avec l'armée française battue, la guerre est terminée et l'Angleterre va céder rapidement. Or, général de Gaulle a une vision, je dirais, mondiale du conflit, panoramique, stratégique. C'est-à-dire, il comprend très vite que la guerre va se poursuivre, puisque la Grande-Bretagne a le premier empire colonial et la France a le deuxième empire colonial. Donc, il y a une possibilité de poursuivre la guerre ailleurs.
Et puis s'il y croit également, c'est parce que, contrairement à ce qu'on a beaucoup entendu, les soldats français n'ont pas été ridicules face aux Allemands, loin de là.
Tout à fait. Il y a eu entre 30 et 50% des chars allemands mis hors de combat en 45 jours de bataille et 50% de l'aviation allemande. Ça a été en quelque sorte le premier round de la bataille d'Angleterre, comme ça a été reconnu par Churchill, mais également par le général Guderian.
D'ailleurs, de Gaulle a pris part au combat quelques semaines avant son appel du 18 juin. Il menait une division de blindés.
Oui, il s'est notamment distingué durant l'attaque de Montcornet, où il a quelque peu inquiété, je dirais, les moyens de ravitaillement allemands. Il a récidivé à Crécy-sur-Serre, et puis ensuite à Abbeville, où là, véritablement, il a mené une bataille assez dure, où vous avez eu une division bavaroise qui a subi de très lourdes pertes contre la division blindée du général de Gaulle.
Ce qu'il faut bien s'imaginer, c'est qu'à l'époque, la plupart des blindés français n'étaient pas équipés de radio. Donc, pour coordonner tout ça, le général de Gaulle se devait d'être au cœur de la bataille.
Ah bah, il était au cœur du terrain, il circulait en sidecar ou en véhicule pour donner les ordres. Néanmoins, il y avait des chars lourds comme le B1 bis qui était un char puissant et qui a, je dirais, semé parfois la terreur dans les rangs des troupes allemandes.
Il a été un bon général avant de s'envoler pour l'Angleterre. Il était apprécié de ses soldats.
Bah, il s'est distingué quand même dans trois contre-attaques qui ont inquiété le haut commandement allemand. D'ailleurs, le Guderian y fait référence dans ses souvenirs de guerre. Donc, on peut penser que réellement, il y a eu, je dirais, une volonté de combat du côté de Gaulle.
Revenons à aujourd'hui. Est-ce que vous observez des réminiscences de cet appel du 18 juin dans certains discours de nos responsables politiques ?
Vous avez beaucoup de gens qui se disent être dans l'héritage du général de Gaulle. Le général de Gaulle est devenu très à la mode aujourd'hui, de Jean-Luc Mélenchon jusqu'à Marine Le Pen. Donc véritablement, on peut dire qu'il a marqué les esprits, y compris les esprits politiques.
Oui, aujourd'hui, tout le monde se revendique un peu du général de Gaulle. Qu'en est-il des discours ? Notamment quand on entend le président Macron nous dire « Nous sommes en guerre contre l'épidémie de coronavirus, le combat ne fait que commencer ». On a l'impression un peu d'entendre l'appel du 18 juin, là.
Oui, mais là, je dirais qu'il y a une hystérisation de la situation. On n'est pas du tout dans la situation de mai-juin 40. Donc, il y a, je dirais, une volonté politique, certainement, derrière tout ça, de communication politique, pour dramatiser la situation qui n'a rien à voir avec la situation que l'on a connue en mai-juin 40.
Elle était bien plus critique en mai-juin 40, c'est ce que vous voulez nous dire.
Ça n'a rien à voir. De nombreuses villes avaient été détruites et il y avait eu 10 000 morts du côté civil et 60 000 soldats français tués, plus de très nombreux blessés, et le pays allait être occupé par les Allemands. Donc on n'était pas du tout dans la même situation que celle du Covid que l'on a connue.
Merci Dominique Lormier de nous avoir éclairé sur cet appel du 18 juin dont nous fêtons, célébrons aujourd'hui le 80e anniversaire. Je rappelle que vous êtes historien et écrivain spécialiste de la Seconde Guerre mondiale. Je donne les titres de vos deux derniers livres qui viennent de sortir. De Gaulle, intime et méconnu, c'est aux éditions Alizio. Et Les vérités cachées de la défaite de 1940 aux éditions, cette fois, du Rocher. Bonne journée à vous et à très bientôt sur Europe 1.